Je m'appelle Yves Cusset, je suis philosophe, ça c'est bien pompeux de dire ça, et en particulier en philosophie, je me suis ces derniers temps spécialisé dans les questions touchant l'accueil et le droit d'asile. Après, oui, j'ai rencontré des gens qui travaillaient sur des questions proches pour évoquer ces questions-là sur le thème de passage des frontières. Donc, il y avait une équipe de plusieurs philosophes qui abordaient cette question en philosophie politique, celle du passage des frontières et au-delà du dialogue des cultures. Voilà, et c'est dans ce cadre-là qu'avait été organisé un colloque commun entre des chercheurs africains, essentiellement de République démocratique du Congo et du Cameroun aussi du Sénégal, du Rwanda, et des chercheurs venus de France. Ça s'appelait, je crois, Dialogue des cultures et passage des frontières. Voilà, et c'est dans ce cadre-là qu'avec plusieurs collègues, on a été amené à prendre l'avion pour Kinshasa. C'était la première fois que j'allais en Afrique noire. Voilà, donc pour moi, c'était important de préparer ce voyage. Et en même temps, en prenant mon billet d'avion, je me suis dit, mais quand même, la RDC, je me doutais qu'il devait y avoir des reconduites pour la RDC dans l'avion, parce que c'était un pays où il y avait a priori pas mal de demandeurs, enfin en France, de demandeurs d'asile originaires de la RDC. Enfin, ça, moi, je peux pas faire le voyage comme si de rien n'était, avec mon plateau repas, tranquillement, et en train de relire ma conférence sur l'accueil, culture du dialogue. Non, dialogue des cultures et passage des frontières ou culture du dialogue? Non, dialogue des cultures et passage des frontières, c'est ça. Bon, mais après, je me suis occupé de la préparation de ce voyage de manière assez égocentrée, inquiète. Donc j'ai oublié mes soucis d'ordre moral. Et le jour J, avant d'embarquer dans l'avion, des policiers sont venus vers nous et nous donnant un papier indiquant qu'il y avait des gens qu'on reconduisait à la frontière dans cet avion et que si on s'y opposait, on s'exposait à des poursuites judiciaires qui pouvaient aller jusqu'à 6 ans d'emprisonnement, je crois, et 70 000 euros d'amende. Et donc, je lis ça, et du coup, en voulant me menacer, ils m'ont surtout rappelé que je ne voulais pas rester là passif si jamais il y avait des gens qu'on reconduisait chez eux de force dans l'avion. Si j'avais pas eu le papier, je l'aurais pas su. C'est grand, ces avions sont des longs courriers, il y a beaucoup de monde dedans. Et évidemment, ils montent avant dans l'avion avec les policiers, par l'arrière, ils se mettent bien au fond, ils sont quand même séparés des passagers. Les policiers savent être discrets dans ce cas-là. Donc, j'aurais pas eu ce papier, je n'aurais même pas su à la limite qu'il y en avait. Je m'en serais pas rendu compte. Donc là, on le savait, on est allé au fond et on leur a demandé bah, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes avec des policiers? Voilà, c'est là que les policiers nous ont demandé d'aller nous asseoir. Donc vous devez respecter la loi, vous n'avez pas à vous y opposer. Et bon, là, on leur a dit si, en démocratie, on a le droit de dire notre désaccord avec la loi, même si la République nous impose d'y obéir. Hein. Ça a duré quelques minutes comme ça avec les policiers, mais ça se voit, c'est-à-dire que quand tous les passagers sont assis, qu'il y a trois passagers debout, bah les gens se retournent et comprennent ce qui se passe. Ils ont compris qu'ils avaient affaire effectivement à des philosophes, et ça, c'est un peu emmerdé. Merde, encore un intellectuel de gauche, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y a eu des manifestations d'indignation de la part de Congolais dans l'avion. Ça aurait dû s'arrêter là. L'avion était retardé, et ils étaient embêtés. Ça commençait à être tendu, et quelques minutes plus tard, on a vu arriver une brigade de CRS dans l'avion. Je me souviens très bien de mon voisin de gauche, qui était un homme congolais relativement âgé. Il me dit, bah mon gars, toi tu verras pas Kinshasa. Je suis désolé pour toi. Je dis, bah ouais, je sais, moi aussi, c'est vrai, je m'étais bien préparé à ce voyage, mais voilà, le résultat. Je disais ça en riant, parce qu'on avait besoin de se détendre après toute cette tension. Finalement, on disait ça avec une certaine légèreté. Et puis, ils sont venus chercher mon collègue, qui était derrière moi, ça je m'en souviens très bien, et qui, à ce moment-là, en même temps qu'il était embarqué, s'est levé et a dit son nom. Son âge, ça a décliné son identité devant tous les passagers, voilà, pour qu'il y ait un témoignage de ce qui se passe. Et il a été emmené vraiment brutalement. Bon, il résistait pas spécialement, mais voilà, il l'embarque quand même violemment, parce qu'ils sont plaisés de prendre les gens un par un. Vous voyez, avec les couloirs des avions, ils viennent prendre quelqu'un, ils reviennent, hein, on peut pas en prendre plusieurs à la fois. Et ils ont bousculé quelqu'un en l'embarquant, c'était la confusion, ça bougeait beaucoup, et qui a protesté. Il devait revenir me chercher. Il y a un CRS qui m'a dit, bon, toi, t'es le prochain, on vient te chercher. Faut assumer vos actes. Toi avec ta chemise orange, qui fait que je me souviens que j'avais une chemise orange. Faut arrêter de jouer les justiciers, faut assumer vos actes. On a des recommandations en haut lieu. Je me souviens très bien de ces phrases-là. C'est vraiment très, très, très cow-boy, quand même. Et du coup, au lieu de venir me rechercher moi, comme le type a protesté, ils l'ont embarqué aussi. Le pauvre qui voulait rentrer au Congo, moi, on a attendu, hein, j'étais sûr qu'ils allaient venir me chercher. On n'a plus revu les CRS après, ils n'ont pas fait de troisième passage. Donc, j'ai pu aller à Kinshasa, prendre l'avion. Il a fini par décoller avec plus de 3 heures de retard. Et ensuite, pendant le voyage, on a pu discuter avec un certain nombre de passagers. Discussion beaucoup plus, enfin, presque philosophique, en tout cas politique. Cet espace de débat démocratique dont je me désolais qu'on en prive certains, on s'en est saisi là, dans l'avion. C'était vraiment ça, c'était un bel imprévu. C'est pour ça que le pilote a eu peur. Il a cru qu'on préparait une émeute à l'arrivée à Kinshasa. Au retour, c'est tout bête. Très franchement, j'avais oublié les menaces du policier. Bon, il m'a menacé, c'était que de la gueule, comme on dit. C'est parce qu'il se sentait inquiet, il a voulu jouer le cow-boy. Et donc, moi, je pensais que, voilà, on allait pouvoir surtout retrouver notre collègue, lui dire comment ça s'était passé. Et on pensait pas que la police allait revenir. Et puis, on voit qu'au lieu de passer directement aux douanes, bizarrement, il y a un policier qui demande les passeports. À la sortie des passerelles d'embarquement, il demande tous les passeports, les gens, jusqu'à ce que ma collègue et moi, on lui donne notre passeport et qui nous dit si vous voulez bien venir sur le côté, très poliment, et qui nous dit « Excusez-moi, j'aurais quelques questions à vous poser au sujet de ce qui s'est passé à l'aller, si vous voulez bien me suivre. » Et nous, on est d'une grande naïveté. On aurait dû dire « Ben non. » Et évidemment, il n'a rien dit. Et une fois qu'on était dans les locaux de la police aux frontières, il nous a précisé qu'on était en garde à vue, qu'on pouvait appeler un avocat, etc. C'était la première fois que j'étais en garde à vue. La première fois que j'étais privé de liberté de cette manière-là. D'ailleurs, une partie, je l'ai fait en cellule solitaire. Ça, c'est très, 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 très long. Puisque quand on est en garde à vue, on n'a rien. Ils vous enlèvent tout pour pas que... Voilà, y compris vos lacets, mais évidemment, les livres, au cas où ils nous viendraient à l'idée d'en manger les pages. Tout ce qui permet de s'occuper. Donc, je pouvais rien faire, j'ai chanté. Je me souviens que ça faisait rire les policiers. J'ai chanté du Joe Dassin, ils sont mis à chanter avec moi. Le policier qui m'a auditionné à la fin de cette garde à vue, policier noir, il m'a dit « Ouf, moi, si j'étais à votre place, j'aurais fait la même chose. » Je ne sais pas si tous les policiers sont comme celui que j'ai rencontré. J'en doute. Ce n'était pas le cas des agents de la police aux frontières qui, eux, nous traitaient plus de haut, disant « C'est quoi ces intellos de merde qui veulent nous donner la leçon ?» quoi. Vous allez voir, vous ne savez pas ce que c'est que les cellules de la police aux frontières, on va vous montrer qui c'est Raoul. Quoi. Donc ça a été une expérience de la garde à vue, et après ils m'ont mis dans une cellule avec d'autres gens, et là c'était vraiment des gens qui allaient être... expulsé. On n'est pas dans des espaces de sollicitude. Et je me souviendrai bien de ce Ghanéen, je me souviens qu'il est Ghanéen, qui parlait pas français, qui voulait aller jusqu'à Londres, qui se demandait bien ce que je faisais là, parce que dans cette cellule, il n'y avait que des Noirs, il voyait un petit blanc visiblement pas originaire, de même classe sociale, un petit bourgeois blanc. Il me demande « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Je lui raconte l'histoire. Et là, il a trouvé ça ahurissant. Que moi... petit français blanc bourgeois, je me retrouve en cellule parce que je m'oppose à cette politique-là, alors là, ça lui paraissait presque plus inquiétant. Et c'est là qu'il m'a dit « What is France making? There is a problem with Europe. » Qu'est-ce que fait la France? Il y a un problème avec l'Europe. Évidemment, cette question-là, moi, ça m'a interrogé philosophiquement. Ça a changé... Comment vous dire ? Évidemment, ces questions, je me les posais déjà. Mais le fait que ça vienne dans cette situation et que la question soit posée par quelqu'un qui subit cette politique a changé mon regard. Parce que jusque-là, je me disais, moi, effectivement, bon, je suis un bobo sentimentaliste de gauche qui a envie de défendre ces gens-là. Ça n'a pas grand intérêt. J'écris pour ceux qui sont déjà convaincus. Et c'est un luxe. Moi, j'ai le luxe de pouvoir écrire là-dessus pendant que d'autres subissent ça de plein fouet. Un livre, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui peut justement produire de l'espace public. Le destin d'un livre, en tout cas, quand c'est pas un best-seller, c'est comme ça. Donc, je crois pas que c'est par là qu'on peut interpeller le public. Ça m'a donné envie aussi d'essayer de réécrire la chose de manière humoristique, de m'interroger sur l'engagement de manière humoristique, et même sur ces questions-là de droit d'asile, d'expulsion, de sans-papiers, de les approcher à la manière humoristique. Ce que j'ai fait juste après, dans un spectacle qui s'appelle « Le titre est à rallonge », attention, hein, « Petit manuel d'engagement politique à l'usage des mammifères doués de raison et autres hominidés un peu moins doués », où je reconstruis de manière fictive et assez libre cet incident-là.
Refusez d'obéir et ne laissez pas faire tous ces vols charters avec leur triste cire. Ne soyez pas complices par la passivité du pauvre chauvinisme de la prospérité.